Présence dans la vallée du Lot, 92.5.
Bonjour à toutes et à tous, il est midi, soyez les bienvenus pour Présence Midi en direct jusqu'à 13h. Dans un instant, direction le Gers. Dernièrement, le comité Auch, Baran du Souvenir Français du Gers, a tenu son assemblée générale dans la région d'Auch et de Baran. Ce comité participe notamment à la gestion et au respect des carrés militaires locaux comme celui de Baran qui compte environ 94 tombes. Pour nous en parler, eh bien Pauline Cazier est allée à la rencontre de Louis Saint-Ignan, c'est le délégué départemental, et Rose-Marie Miotti, qui est la présidente du comité Auch-Baran, c'est à suivre et à écouter aux alentours de midi 10. Et puis on va rester dans ce travail de mémoire avec un jour, un livre, un auteur, notre émission hebdomadaire avec Philippe Nomi et toute son équipe. Il va se voir à midi et demi Manuela Parra, qui a écrit ce roman, Lettre aux absentes, ce roman qui est publié aux éditions du Chèvrefeuille étoilé. Mais pour le moment, place à l'actualité avec les titres qui seront développés à 12h30. Et les titres sont annoncés par Ambre Pagès de l'Institut catholique de Toulouse.
À l'occasion des semaines européennes de la vaccination, programmées du 27 avril au 10 mai, le centre hospitalier de Rodez se mobilise. Pour promouvoir l'importance de la vaccination, les équipes du centre de vaccination seront présentes sur le marché de Rodez aujourd'hui ainsi que mercredi prochain. Plus d'un agriculteur sur deux vit sous le SMIC en Occitanie. C'est ce que révèle le rapport de l'Observatoire de la rémunération agricole équitable qui est paru ce mardi. Un constat alarmant qui témoigne des signes d'une crise agricole durable. Le chantier de pavage à Lozerte, prévu jusqu'au 15 mai, impacte la circulation et le stationnement au sein de la Bastide médiévale. Des panneaux de signalisation spécifiques vont être mis en place, assure la mairie. Un centenaire fêté au sanctuaire de Lourdes ce week-end. Les foulards blancs, associations scouts accompagnant les pèlerins, les personnes fragiles et les hospitalités se rassemblent du 1er jusqu'au 3 mai pour célébrer les 100 ans de l'association. Montauban inaugurera un nouvel équipement le 5 mai. Officiellement achevé, l'ascenseur urbain du Jardin des Plantes sera accessible au public à partir de mardi prochain. Enfin, d'importantes festivités sont prévues à Figeac à partir de ce jeudi à 14h. Entre la fête foraine, les déambulations, les visites gratuites du musée Champollion et les bandas, la sous-préfecture du Lot propose un pont de mai animé.
Merci Ambre Pagès, qui est étudiante au sein de l'Institut catholique de Toulouse. Ces titres seront développés tout à l'heure dans le journal à midi et demi. Dans un instant, direction le Gers avec Pauline Cazier et ses invités. On va parler du comité Auch-Baran du Souvenir Français du Gers. Pauline Cazier est allée à la rencontre à l'occasion de leur assemblée générale.
It breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story, obviously. There'll never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? From you, no, and you will never.
Bon appétit à vous qui nous écoutez avec à l'instant la voix d'Imani.
Radio Présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2.
Dans le Gers, dernièrement, le comité Hoche-Baron du Souvenir Français du Gers a tenu son assemblée générale. Dans la région d'Hoche et de Baron, le comité participe à la gestion et au respect des carrés militaires locaux, comme celui de Baron qui compte environ 94 tombes. Le comité participe activement aux cérémonies patriotiques locales et nationales, comme le 11 novembre, le 8 mai, le 14 juillet, ainsi qu'aux commémorations local. Il collabore avec les collectivités, les anciens combattants et les établissements scolaires pour maintenir vivant le devoir de mémoire. Pour nous en parler, Pauline Cazier a rencontré Louis Saint-Ignan, délégué départemental, et Rose-Marie Miotti, la présidente du comité Hoche-Baron.
Louis Saint-Ignan, bonjour. Vous êtes délégué départemental du Souvenir Français. Alors, pour les auditeurs de Radio Présence qui ne connaissent pas le Souvenir Français, pouvez-vous expliquer les missions ?
Oui, alors bonsoir à tous vos auditeurs. Alors, le Souvenir Français est une très vieille association puisqu'elle a été créée après la guerre de 1870 contre la Prusse. Le 2 septembre 1870, Napoléon III a capitulé à Sedan. Que pour autant, la guerre de 1870 n'a pas été terminée. Elle a continué sur le sol français puisque Paris a été assiégé. Les combats ont même eu lieu au bord de la Loire. Le 28 janvier 1871, il y a eu l'armistice, ce qui a déclenché la Commune de Paris, puisque les Parisiens ont refusé la paix avec, à l'époque, c'était la Prusse et ses alliés des provinces allemandes. L'unité allemande a été réalisée d'ailleurs par Bismarck le 18 janvier 1871, à Versailles, et peu avant donc la signature de l'armistice. Et le 10 mai 1871 a été signé le traité de Francfort, par lequel la France a dû céder l'Alsace et la Moselle à l'Empire allemand. Un professeur alsacien, François-Xavier Nissen, n'a pas accepté cette situation. En 1872, déjà, avait germé cette idée. Il a créé le Souvenir Français, qui est une association mémorielle qui a trois objectifs. Alors, c'est une association qui est soumise à la loi de 1901, qui n'existait pas au moment de sa création, mais qui a été mise en conformité avec la nouvelle loi 1901, qui a été reconnue d'utilité publique en 1906, qui est placée sous le haut patronage du président de la République, qui a été couronnée par l'Académie française et l'Académie des sciences morales et politiques. Et donc, c'est une association qui n'a pas, qui a une continuité. Ce n'est pas comme une association d'anciens combattants qui regroupe les personnes ayant participé à un même conflit et malheureusement, elle vient de disparaître. Je prends un exemple, il n'y reste plus d'anciens combattants de la guerre de 1914-1918 puisque le dernier poilu, les Pondicelli et les aidés, que le second conflit mondial voit de moins en moins d'anciens combattants et que chaque jour on voit que les effectifs, les participants à la guerre d'Algérie, chaque jour décèdent, hein, puisque c'est la tranche d'âge des personnes nées entre 1934 et 1942. Donc, il y a de plus en, donc les effectifs s'amenuisent. En revanche, l'association du Souvenir Français est une une association mémorielle qui dure depuis plus d'un siècle et qui n'a pas de limite dans le temps, puisqu'elle continuera à s'occuper donc du souvenir. Il y a essentiellement trois missions que je vais vous résumer. La première, c'est de conserver la mémoire des personnes, des hommes et des femmes qui sont morts pour la France au cours de son histoire ou qui l'ont honoré par de belles actions, notamment en entretenant leurs tombes ainsi que les monuments élevés à leur gloire, tant en France qu'à l'étranger. Donc c'est la mission première, l'entretien des tombes des morts pour la France et des monuments commémoratifs. La deuxième mission est d'animer la vie commémorative en participant et en organisant des cérémonies patriotiques nationales et des manifestations locales qui rassemblent les différentes générations autour de leur histoire. Souvenir français, la délégation générale et six comités du GERS qui la composent, aux cérémonies tant nationales, c'est-à-dire 8 mai, 14 juillet, 11 novembre, que locales, nous participons au combat de Castelnau-sur-Lauvignon, au combat du maquis de Meillan, de l'île Jourdain, de Panjas. Nous organisons et nous participons à ces cérémonies. Et les cérémonies les plus marquantes sont celles pour le GER sont celles de Castelnau-sur-Lauvignon, du maquis de Meillan. Et les deux cérémonies importantes organisées par le Souvenir français sont celles qui ont lieu à Lectour, au carré des Sénégalais, parce qu'il y a un carré de tirailleurs sénégalais qui sont morts de maladie après la guerre 14-18 et qui ont inhumé dans un carré militaire à Lectour. Et la cérémonie en hommage aux Harkis. La cérémonie a lieu une année à Roche, une année à Mirande, parce qu'il y avait à Mirande une communauté Harki qui travaillait dans un hameau de forestage. Donc chaque année aussi, nous participons à la cérémonie organisée à Mirande. Et enfin, la troisième mission du Souvenir français, c'est de transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives, en leur inculquant, par la connaissance de l'histoire, l'amour de la patrie et le sens du devoir. Alors, à ce titre-là, j'interviens dans les établissements scolaires, en primaire, dans le secondaire, et moi-même, je participe chaque année, je fais partie du jury du concours national de la résistance, auquel participent les élèves des collèges et des lycées du département du Gers. Et également, dans cette mission de transmettre la mémoire, nous finançons des voyages scolaires, soit sur des lieux de mémoire nationaux, comme les champs de bataille de Verdun, du Chemin des Dames, ou des plages de Normandie, sur les sites locaux, maquis de Meillan, le musée de la Résistance à Auch, ou le musée très intéressant des frères da Silva à Brugnin, ce petit village. Ils se situent près de Florence. Donc voilà les trois missions essentielles du Souvenir français. Concernant ces ressources, parce qu'il faut des ressources pour se faire, nous avons essentiellement deux sources de revenus. D'une part, les cotisations des membres. Nous sommes à peu près un peu. Cette année, les effectifs ont remonté. Dans le département, nous sommes à peu près 490 membres. Et également, la quête nationale du Souvenir français qui a lieu chaque année aux alentours de la Toussaint. Nos quêteurs se mettent sur la voie publique ou près des cimetières pour recueillir les dons des personnes et nous leur expliquons le sens de la mission du Souvenir français.
Je voulais vous poser la question, est-ce qu'il y a une particularité des monuments aux morts dans le département du Gers par rapport à d'autres départements?
Je ne sais pas qui a fait un ouvrage très intéressant sur ces monuments aux morts. Ils sont de différentes formes, de différentes conceptions et je crois même qu'il y a quelques monuments aux morts dans le département de la guerre de 1870. Notamment, j'ai vu l'autre jour, je suis allé à Masseube, où il y a de chaque côté de la route le monument aux morts érigé à la demande du Souvenir français à l'époque pour les morts pour la France gersoise de la guerre de 1870. Et de l'autre côté de la rue, il y a le monument aux morts dédié aux morts des deux guerres mondiales, de la guerre d'Algérie, d'Indochine et des opérations extérieures.
Je vais passer la parole à Rosemary Miotti. Vous êtes présidente du comité pour Auch-Barrens, parce que, monsieur de Saint-Ignan, vous disiez qu'il y a sept comités, c'est ça? Six. Alors, dans ce comité Auch-Barrens, madame Miotti, expliquez-nous ce que vous faites.
nous essayons de cultiver les lieux de mémoire, en ce sens qu'on fait des appels aux adhérents, et aujourd'hui, j'ai une cinquantaine d'adhérents à jour de leur cotisation et j'ai à peu près 100 adresses. On fonctionne en faisant effectivement toutes les cérémonies. On essaye d'être présent à toutes les cérémonies avec nos porte-drapeaux. Nous avons deux porte-drapeaux, un titulaire, un suppléant. Et ensuite, suivant la demande, parce que nous n'allons pas vraiment au-devant, suivant la demande, nous recevons des demandes pour rénover un monument aux morts, faire des voyages scolaires dans les lieux de mémoire, et c'est comme ça que nous fonctionnons. Après, effectivement aussi, on fait un petit peu, on va, comme là, j'essaye de rentrer en relation avec l'académie, l'inspecteur d'académie, pour essayer dans les collèges, les lycées, de faire des actions pour sensibiliser les jeunes. Et en fait, c'est les fonctions du souvenir français que nous essayons de mettre en œuvre dans nos comités. Et ce que j'essaye de faire à Auch.
Vous recrutez toujours des adhérents, c'est plus compliqué les années passant ?
Oui, c'est de plus en plus compliqué parce que d'abord, moi personnellement ici, dans le comité Auch-Parents, j'ai un comité vieillissant. Il ne faut pas se voiler la face à Auch, les jeunes partent. J'en ai quand même quelques-uns, hein, il ne faut pas dire, mais j'ai beaucoup de mal pour arriver à transmettre le flambeau, comme disait tout à l'heure Monsieur Saint-Ignan, et avoir de nouveaux adhérents jeunes. Mais je ne suis pas en perte de vitesse au niveau des adhérents cotisants, donc je suis contente, parce qu'il faut se contenter de peu. Voilà.
Quand vous déplacez dans l'établissement scolaire, ce sont les collèges, les lycées ?
Les écoles primaires,
est-ce que vous sentez que la génération actuelle est encore sensibilisée, les professeurs d'histoire sensibilisent les élèves sur la période des années 40 et même la guerre d'Algérie, ou comment ça se passe ?
Je le pense parce que nous avons, je prends l'exemple de deux comités, le comité de Condon, où la secrétaire et la trésorière sont deux professeurs d'histoire du lycée Bossuet, qui sont très impliqués et qui interviennent beaucoup auprès de leurs élèves, qui sont très intéressés. Ils organisent d'ailleurs des cérémonies. L'an passé, nous avions organisé une cérémonie à Condon en l'honneur de Nori Kazoubon, qui est échappé au massacre de Castello sur l'Ovignon, qui est parti réaliser une mission à la frontière espagnole et qui s'est arrêté un soir à Meillan, et qui a été tué lorsque le maquis a été pris d'assaut par le régiment de grenadiers allemand. Et donc, c'est un condomois qui est inhumé au cimetière de Condon, et avec les professeurs d'histoire qui sont membres du souvenir français, nous avons organisé une très belle cérémonie. Puis nous intervenons également, pour jouer à l'Hector, nous avons confié le drapeau de Rhin et Danube dont nous avons hérité, puisque l'association Rhin et Danube, qui regroupait les anciens combattants de la première armée française, a été absorbée, parce qu'il n'y a plus personne, par le souvenir français, et nous sommes chargés de transmettre son héritage moral. Et nous avons récupéré le drapeau que nous avons confié à la garde de la cité scolaire Maréchal Lannes. Là aussi, le proviseur de cette cité est très, très, très impliqué, et les professeurs également. Et je le vois aussi dans les établissements scolaires. Hein, je reçois des demandes de voyages pédagogiques d'écoles primaires, du département, de petites communes, et effectivement, les enseignants sont très impliqués.
Une dernière question, combien reste-t-il d'anciens combattants de la guerre de 39-45 dans le département ?
39-45, de part, restait beaucoup. D'autres se couraient sur les poignets, sur les deux mains. Hein. Et la dernière. Alors, il y a eu aussi, c'est une guerre méconnue, c'est la guerre de Corée, mais qui a impliqué un bataillon français de 3500 hommes, où il y a eu 387 tués, je crois. Mais c'était sous la bannière de l'ONU, hein. C'était la demande de l'ONU et une résolution du Conseil de sécurité qui avait demandé aux nations d'engager une action contre l'agression de la Corée du Nord contre la Corée du Sud. Donc il y a un Gersois qui a été tué pendant ce conflit et qui est inhumé à Saramon. Sinon, après en Indochine, c'était une guerre, mais avec des volontaires, c'était l'armée de métier. Mais le contingent le plus important, c'est les anciens combattants d'Algérie, parce que c'est des appelés. Les effectifs sont encore importants, mais ils diminuent chaque jour de plus en plus. Mais de la Deuxième Guerre mondiale, il ne doit pas rester beaucoup d'anciens combattants. Hein.
Voilà, nous venons d'entendre il y a quelques instants Rose-Marie Miotti, la présidente du comité Auge-Baron, ainsi que Louis Saint-Ignon, le délégué départemental. C'est dernièrement que le comité Auge-Baron du Souvenir Français du Gers a tenu son assemblée générale. Et c'est à cette occasion que Pauline Cazier a réalisé cet entretien. Pauline Cazier, que l'on remercie.
Présence.
Bon appétit à l'écoute de Présence Midi. La suite de cette émission dans un instant, c'est avec le journal régional. Journal présenté par Ambre Pagès. Et puis juste après, c'est toute l'équipe d'Un jour, un livre, un auteur autour de Philippe Nonni qui débarque dans Présence Midi.
Mes regrets sincères, vraiment désolé pour toi. Tu repars vers ta galère, mais cette fois ça sera sans moi. Personne ne t'attend là-bas. Plus de musique, bar désertique. Avec des fantômes que tu ne vois pas. Coupe légendaire, croisée des mystères. Mais maintenant ça.
présence aux portes du Tarn. 97.9.
Dans un instant, on va découvrir un roman qui s'intitule « Lettres aux absentes », roman publié par écrit par Manuela Parra et publié aux éditions du Chèvrefeuille étoilé. C'est un roman à découvrir dans un instant, dans un jour en livre un auteur, mais pour le moment, place à l'actualité régionale avec Ambre Pagès de l'Institut catholique de Toulouse pour le journal régional.
Bonjour à tous. Pour les semaines européennes de la vaccination, programmées du 27 avril au 10 mai, le centre hospitalier de Rodez se mobilise. Aujourd'hui ainsi que mercredi prochain, les équipes du centre de vaccination seront présentes sur le marché de Rodez afin de sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination. Il est possible de s'informer davantage au stand d'information installé depuis hier dans le hall de l'hôpital Jacques Puel. Celui-ci est ouvert de 10h à 16h jusqu'au 10 mai. L'objectif de ces semaines de prévention est de répondre aux questions de la population, les accompagner pour faire le point sur leur vaccination ou la création d'un carnet de vaccination numérique, tout en promouvant le rôle majeur de la vaccination dans la santé publique. Le dernier rapport de l'Observatoire de la rémunération agricole équitable est paru ce mardi. Le constat est alarmant. La précarité agricole s'aggrave en Occitanie. Selon l'étude, 29 600 exploitants, soit 57% de la profession, perçoivent une rémunération inférieure au SMIC. Une situation qui concernerait plus d'un agriculteur sur deux. Un rapport qui alerte sur les signes d'une crise agricole durable. L'organisme souligne qu'il manque annuellement 808 millions d'euros pour assurer un revenu décent à l'ensemble des professionnels du milieu agricole. Un chiffre qui a doublé par rapport à la période 2015-2022. Cette insécurité financière touche l'ensemble des productions du Sud-Ouest. Tous les secteurs sont impactés, les élevages bovins et ovins, la viticulture et l'arboriculture. Mais c'est le secteur céréalier qui souffre le plus de cette situation, avec un taux de 65% d'exploitants rémunérés sous le salaire minimum. L'Observatoire déplore une précarisation progressive des exploitations, rendant plus difficile l'investissement, la transmission et la stabilité économique des territoires agricoles. Depuis lundi jusqu'au 15 mai, des travaux de pavage sont organisés à Lozerte. Le chantier impacte la circulation ainsi que le stationnement dans les rues de la commune. Une signalisation spécifique sera mise en place afin de guider les habitants et visiteurs. La mairie appelle à la vigilance durant cette période de travaux, nécessaire à l'entretien et à la mise en valeur de la Bastide médiévale. Les foulards blancs fêtent leurs 100 ans d'engagement auprès des pèlerins et des plus fragiles au sanctuaire de Lourdes. Et en 1926, l'association a été créée par de jeunes adultes, souhaitant prolonger leur engagement scout. Depuis un siècle, ils accompagnent les hospitalités diocésaines dans l'accueil et l'accompagnement des pèlerins. Cette mission rassemble chaque année plusieurs dizaines de bénévoles venus de différents mouvements scouts. Engagés au service des autres, ils participent à différentes tâches, telles que l'aide au déplacement des personnes malades, l'accueil ou la logistique. Pour marquer ce centenaire, les foulards blancs se rassemblent lors d'un week-end de célébration et de prière, les 1er, 2 et 3 mai à Lourdes. Un nouvel équipement à Montauban est officiellement terminé et sera inauguré le 5 mai. L'ascenseur du Jardin des Plantes sera accessible à partir de mardi prochain. Cet aménagement doit faciliter la liaison entre le Jardin des Plantes et le centre-ville. Il sera aussi plus simple de rejoindre le parking du jardin. L'ascenseur urbain est gratuit, il fonctionnera tous les jours sans exception, de 6h à 23h et pourra accueillir jusqu'à 16 personnes. À partir de 14h demain et jusqu'à dimanche, la fête foraine animera les rues de Figeac. Pour l'occasion, plusieurs activités seront proposées durant tout le week-end. Des déambulations festives, un marché animé, des concerts de bandas ou encore des visites gratuites du musée Champollion sont prévues. Un week-end prolongé qui se promet ensoleillé et festif dans la sous-préfecture du Lot.
Merci à Ambre Pagès, voilà, qui est étudiante au sein de l'Institut catholique de Toulouse. Retour de l'info sur notre antenne à partir de 13h avec la rédaction française de Radio Vatican pour l'actualité nationale et internationale. Et pour le moment, c'est toute l'équipe d'un jour, un livre, un auteur autour de Philippe Noni. Ils sont là en studio.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arrabal, Philippe Subercaz.
Mais quel bonheur de vous retrouver, Philippe Noni et Diego Arrabal. Comment allez-vous?
Très bien, mon cher Philippe Subercaz, bonjour.
Bonjour les deux Philippe.
Et bonjour Diego Arrabal.
Bonjour mon cher ami.
Allez.
Alors un jour, un livre, un auteur, et de quoi, c'est quoi le sujet de cette émission?
Ah, c'est un sujet, aujourd'hui on va travailler le devoir de mémoire.
Ah, oula. Ça vous
et vous verrez que la semaine prochaine, ça sera également un thème, effectivement, que l'on aura. Vous savez que c'est un thème qui m'est très cher. Il m'est très cher, pourquoi? Parce que la résistance à la barbarie est souvent une histoire d'homme, ou pour être plus exact, une narration faite par les hommes pour les hommes. Peu de place est laissée aux femmes dans ces récits, et pourtant, Et pourtant, comme d'habitude, la réalité est bien plus nuancée, et c'est justement le thème du roman « Lettres absentes », publié aux éditions du Chèvrefeuille étoilé. Nous recevons donc son auteur. Bonjour Manuela Parra.
Bonjour, à vous tous, bonjour aux Pyrénées.
Et merci, Lettres absentes. Voici justement la quatrième de couverture de votre roman publié aux éditions du Chèvrefeuille étoilé, Manuela Parra. Et si les absentes pouvaient encore parler ? Elles s'appellent Inès, Juliette, Louise, Mathilde, Antonia. Certaines ont existé, d'autres s'inspirent de témoignages. Espagnoles ou françaises, engagées dans la résistance contre le fascisme et la barbarie nazie, elles furent emprisonnées, torturées, parfois exécutées, souvent oubliées. Cette correspondance imaginaire, profondément documentée, offre un dialogue entre ces femmes de l'ombre et l'autrice et crée du lien entre elles. Porté par la plume inspirée de Manuela Parra, témoin de notre temps, ce roman polyphonique redonne chair et âme à ces résistantes dont les luttes résonnent encore aujourd'hui. Entre fiction et mémoire, ce livre est un fervent hommage à celles qui ont osé dire non, à celles qui ont aimé, douté, résisté, à celles dont la parole, trop souvent étouffée, devient ici un cri de vie. Manuela Parra, comment vous est venue l'idée de ce roman « Lettres absentes » que vous avez publié au Chèvrefeuille étoilé?
Eh bien, d'abord, si vous voulez, il m'est venu spontanément, après vous savez que je suis aussi présidente d'associations qui organisent les rencontres franco-espagnoles.
Alors vous allez nous parler de ça, vous allez commencer par nous parler de ça pour les auditeurs et les auditrices, parce que je ne suis pas persuadée que tout le monde connaisse effectivement cet aspect-là, allez-y.
Ben, c'est une association qui est le miroir d'une association qui existe en Espagne. Vous savez que moi, je suis fille de l'exil des républicains espagnols et puis de l'exil économique aussi. Donc, je suis pratiquement espagnole. D'ailleurs, j'ai la nationalité espagnole. Et si vous voulez, je participe en Espagne à un mouvement qui s'appelle Voces del Extremo avec des jeunes espagnols, artistes, auteurs. Et j'ai souhaité créer Voix de l'extrême en France et on organise chaque année les rencontres franco-espagnoles où on invite des artistes, des écrivains pour, si vous voulez, mettre la culture au cœur de notre engagement et avec la même conviction que nos anciens, c'est-à-dire qu'ils avaient mis la culture au cœur de la République parce qu'ils pensaient que c'était un levier de transformation sociale. Voilà. Et donc, en 2024, on a organisé les rencontres franco-espagnoles, c'était la cinquième édition.
C'est à Montpellier que vous organisez ça.
À Montpellier, qui s'appelait Racine y Raíces. Et nous avons fait un grand travail autour de Georges Samprun. Voilà, hein, puisqu'il était des deux côtés de la frontière et que c'est un homme qui s'était engagé dans la résistance. Et j'ai beaucoup travaillé sur Georges Samprun, notamment son premier livre qui s'appelait Le Grand Voyage. D'ailleurs, on a poussé
magnifique
un spectacle.
Roman, oui.
Magnifique roman, le premier roman qu'il a écrit. Et d'ailleurs, on a aidé une compagnie à faire une création autour du Grand Voyage. Et puis, ce livre m'a bouleversée parce que j'avais lu d'autres livres, mais celui-là m'a particulièrement bouleversée. Et ça m'a rappelé tout le travail que j'avais fait quelques années auparavant sur les femmes engagées, les Espagnoles engagées en France qui avaient connu Ravensbrück. Et avec ce qui se passe en France, parce qu'on découvre aujourd'hui la montée du fascisme même en France, et donc j'ai eu honte. Et je me suis dit, tous ces gens, toutes ces femmes françaises et espagnoles qui se sont battues, qui sont souvent oubliées, puisque les femmes sont souvent les oubliées, ça a été pour moi une libération que d'écrire la première lettre à Inès. Et après, ça s'est enchaîné tout seul, parce que c'est quand même plus de 20 ans de collecte mémorielle, d'entretien, de rencontres avec des hommes et des femmes qui ont connu la barbarie nazie ou leurs descendants qui m'ont livré leur histoire. Et j'ai eu besoin d'écrire Lettres aux absentes. Donc, si vous voulez, c'est pas été un projet qui construit, anticipé. Ça a été pour moi une libération. Voilà.
Vous dites que les femmes sont souvent oubliées. Moi, j'ai le sentiment que les femmes sont même toujours oubliées dans le cadre, effectivement, de la résistance. On voit bien, par exemple, personnellement, je suis philatéliste, on voit très souvent que dans les séries de timbres qui ont été consacrées à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, donc aux résistants, beaucoup sont consacrées aux hommes. Et à partir d'aujourd'hui, là, maintenant, on commence à voir des séries de timbres consacrées aux femmes, hein, je parle de la philatélie en France, je connais un peu moins la philatélie étrangère. Est-ce que vous, dans votre volonté d'écrire ce roman Lettres aux absentes, vous avez voulu aussi faire ce devoir de mémoire, sachant que les derniers témoins, donc, qui ont vécu cette Seconde Guerre mondiale, qui ont été résistants, qui sont nés dans les années 20, c'est-à-dire 1924, 1925, peut-être 1930, et encore ils avaient 15 ans, 1945, donc ça veut dire des gens qui ont aujourd'hui 100 ans, et pour la plupart qui sont morts et dont les derniers vont certainement mourir dans les années qui vont venir, est-ce qu'il y avait cette volonté de conserver dans le marbre des mots ce souvenir par rapport effectivement à cette montée du fascisme dont vous parliez tout à l'heure?
Bien sûr. Vous avez parlé de graver dans le marbre. Moi, j'ai eu très envie de graver dans le marbre les actes héroïques, notamment des Espagnols, mais je n'exclus pas les Françaises. Mais c'est vrai que j'ai une particularité, une affection particulière pour les Espagnols qui se sont engagés en Espagne contre Franco, contre le fascisme, qui arrivent en France et qui continuent à s'engager, alors qu'elles ont été mal accueillies, qui continuent à s'engager dans la résistance, comme Mercedes Targa à Carcassonne, comme New Catala. Qui ont été complètement oubliés, mais oubliés aussi politiquement, parce qu'il ne fallait pas que ensuite la libération de la France ou l'engagement dans la résistance des Espagnols et des Espagnols puisse être revendiqué par les Espagnols. Donc, si vous voulez, donc la France n'était pas encline à supporter, si vous voulez, politiquement ce cadre-là. Et donc, si vous voulez, moi, gravé dans le marbre, d'ailleurs, dans mon livre Lettres aux absentes, effectivement, et vous verrez qu'il y a mes gravures. Et pour moi, la gravure, c'est pas neutre. Ça veut dire que c'est aussi faire en sorte que ça reste. Et oui, tout à fait. Et c'est ce que me disent les personnes, quelle que soit leur origine ou leur âge, elles me disent toutes, quand elles lisent Lettres aux absentes, qu'elles ont appris des choses. Voilà. Et certaines me disent, des gamines notamment, parce que j'interviens dans des lycées, me disent on s'identifie à Louise, par exemple, qui est dans le livre, qui incarne les jeunes filles qui se sont engagées dans la résistance, qui était lycéenne. Voilà.
Alors, vous évoquez d'ailleurs à travers votre livre, donc on voit, il y a une trame, il y a des personnages qui sont fictifs, mais qui quelque part représentent des personnages qui ont réellement existé, des personnages qui sont réels, mais que vous romancez quelque part pour mieux effectivement parler du roman. Moi, j'aurais quand même signalé donc aux auditeurs et aux auditrices que vous avez eu un coup de cœur. Donc dans le journal, le fameux journal donc du Proche-Orient, L'Orient le Jour, qui est un journal donc que l'on trouve à Beyrouth, au Liban, alors que je connais très bien personnellement parce que j'ai de la famille au Liban, et donc quand j'ai été au Liban, je lis à chaque fois tous les jours L'Orient le Jour. Je vais lire quelques extraits de cet article qui s'appelle Femmes en résistance, qui est un coup de cœur sous la plume de Yves Chemla, donc qui est un journaliste de L'Orient le Jour, qui écrit cela. Dans Lettres aux absentes, correspondance imaginaire de femmes résistantes, Manuela Parra réactive une mémoire oubliée, celle des femmes républicaines espagnoles qui ont subi le pire. Elles avaient lutté contre l'autoritarisme et les injonctions obscurantistes, vociféré contre l'exigence de la vie, viva la muerte, était l'abject slogan franquiste. Cette correspondance littéraire fait rappel de la résistance à la répression aveugle qui se prolongera longtemps après la fin de la guerre civile, les emprisonnements, sévices, raptes d'enfants, exécutions sans jugement. Celles qui auront rejoint la France seront nombreuses à entrer en résistance contre l'occupation nazie. Capturées, elles furent torturées, assassinées, envoyées dans les sinistres camps. Certaines ont survécu et ont raconté. Ce livre est une méditation qui trouve les mots pour susciter leur présence. Celle-ci rend nos mémoires plus assurées, par l'exigence de liberté qu'elles n'ont cessé d'affirmer. Comment vous avez réagi quand vous avez vu qu'il y avait cet article sur votre livre, donc dans L'Orient le Jour, qui est quand même un journal de référence au Proche-Orient ?
Ben, j'ai été très émue, voilà, parce que je ne m'y attendais pas, parce que voilà, c'est la maison d'édition qui a... Et c'est vrai que, oui, j'ai été très émue, surtout par rapport à tout ce qui se passe au Proche-Orient, par rapport à toutes ces femmes aussi qui résistent là-bas, dans des conditions horribles. Et voilà, je sais pas, enfin, pour moi, ça a été un grand honneur. Et j'aurais voulu aussi être modestement porte-parole de toutes ces femmes qui souffrent là-bas, quoi. Voilà.
On va parler, Manuela Parra, de ces femmes, effectivement, mais on va parler aussi de votre père. Parce que c'est à la mort de votre père que votre maman vous remet un carnet de poèmes aux pages jaunies. Et à partir de là, c'est le début d'une autre histoire dans votre vie, la vôtre, où la honte de vos origines vous quitte à tout jamais. Racontez-nous ce moment.
Eh ben, ce moment, ça a été un moment de surprise, d'incompréhension. J'avais l'impression que je partais que c'était une autre vie qui m'était donnée, parce que j'aurais jamais imaginé que mon père ait pu écrire des poèmes, parce que maman ne savait pas que c'était pas lui qui les avait écrits, et moi non plus d'ailleurs. En plus, comme je ne parlais pas très bien l'espagnol, puisqu'on ne parlait que français à la maison et que moi j'avais fait anglais et allemand au lycée. Donc, si vous voulez, pour moi, ça a été une surprise incompréhensible et une énigme. Mais ça m'a même par moments embarrassée parce que ça perturbait toute la vision que j'avais et les sensations aussi, les émotions et la vie que j'avais eue jusqu'à présent par rapport à ce rapport à l'Espagne. Et donc, je ne savais pas quoi faire de ce patrimoine, de ces poèmes que ma mère m'a confié spontanément. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais posé la question. Pourquoi moi, on est six enfants. Je suis la dernière, c'est vrai que j'étais assez proche de mon père et que avant qu'il ne meure, il voulait à tout prix, il savait qu'il allait mourir, il voulait à tout prix que j'écrive avec lui son histoire de la guerre d'Espagne qu'il nous avait jamais trop confiée, quoi. Et là, puis on n'a pas pu le temps de le faire, donc. Et petit à petit, ces poèmes, après les avoir regardés pendant des années, m'ont mis sur le chemin de m'ont aidé à rebrousser le chemin de l'exil de mon père, à faire de très belles rencontres, parce que sans ces rencontres-là, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait depuis. Et parfois, avec un peu de hargne, parce que j'en voulais à mon père, je me disais, mais si tu m'avais raconté tout ça, peut-être que ma vie aurait été différente. J'aurais pas fait les mêmes choix, j'aurais été fière de ce que tu as fait, j'aurais continué le combat, ton combat. Et puis, ben voilà, je me suis dit, bon, de toute façon, et puis avec notamment Des frontières et des femmes, que j'ai écrit et qui a reçu le prix Binaros chez vous, eh bien...
On s'en souvient, on y était avec Diego Arrabal.
Oui, c'est ça que je voulais.
Au salon du livre de Bagnères de Bigorre, oui, tout à fait.
Et je me dis que ces femmes-là m'ont appris, bon, petit à petit, quand je les ai rencontrées... À calmer ma fureur. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment et la conviction. Je me considère pas comme écrivain. Je me considère comme une passeuse. Et j'écris pour ça. Puis le jour où j'aurai plus rien à passer, ben j'arrêterai. Voilà. Voilà.
Alors cet aspect, moi je l'ai appris concernant votre père dans un très bel article qu'ont sorti donc nos confrères du Midi Libre. Donc oui. Journal que l'on trouve notamment sur l'Hérault et sur toute la partie Languedoc au Roussillon. Oui. Voilà ce qui est écrit. Ils écrivent une revanche, entre guillemets, sur la vie. Et ils mettent vous concernant, fille d'exilé espagnol, habitée par la honte sur ses origines durant son enfance au nom de l'intégration, Manuela Parra porte aujourd'hui la voix de ceux qui ne peuvent plus le faire. Tout bascule à la mort de son père. Sa mère lui remet un carnet aux pages jaunies sur lesquelles sont inscrits des poèmes. Longtemps, elle pensera que les mots calligraphiés par son père étaient les siens. Elle découvrira plus tard qu'il s'agissait en fait de ceux de Federico Garcia Lorca, recopiés par son père, alors qu'il se trouvait dans le camp d'Argelès.
Oui, c'est vrai.
S'ouvre alors un monde méconnu, un itinéraire de vie passée sous silence. Et là, vous déclarez, j'ai été ébloui par tout ce qui m'avait été caché. Si mon père m'avait raconté tout ça, je n'aurais pas eu honte de mes origines. Est-ce que vous n'avez pas la sensation, et c'est ce qui a donné votre livre magnifique, Lettre aux absentes, donc publié au Chèvrefeuille étoilé, est-ce que vous avez pas eu l'impression quelque part que votre père, il a voulu vous protéger en ne vous racontant pas son histoire pour pas que vous alliez quelque part risquer de vous impliquer, notamment dans le cadre de la dictature franquiste, avec tout ce que ça aurait pu impliquer pour votre vie?
Ben, je crois qu'effectivement, il fallait d'abord... bon, en fait, après, il était toujours impliqué quand il était en France. D'ailleurs, il n'a jamais obtenu... Mon père était capitaine dans l'armée républicaine. Il n'a jamais obtenu, quand il a demandé une seule fois, parce qu'il avait quand même, il était assez fier, il n'a jamais obtenu la nationalité française.
Il ne l'a pas demandé? Il ne l'a pas demandé ou
Il a demandé une fois, on l'a lui a refusé parce que c'était un indésirable vu qu'il était engagé.
D'accord.
Et voilà, donc il y a ça c'était la première chose. Et puis la deuxième chose...
Et il a vécu ça comme une humiliation ou pas? Vous avez pu en discuter avec lui?
Oui. Ah non, mon père en discutait pas de ces choses-là. C'était très... Tout ça, on n'avait pas les rapports que l'on a aujourd'hui avec les parents, entre les parents et les enfants. On parlait pas de ces choses. D'abord, j'étais une fille, et puis même avec mon frère, il n'en parlait pas. C'était des taiseux. À l'époque, ils étaient taiseux parce que je crois qu'ils avaient quand même vécu des traumatismes que le silence transmet quand même. Et donc, il était assez mutique. Mais quand des amis espagnols venaient à la maison, parce qu'ils faisaient quand même, ils étaient engagés. Ils s'enfermaient, ils parlaient entre eux, on entendait des bruits. C'était assez. Et nous, je pense qu'il y avait une manière de nous protéger, mais aussi se protéger parce que il avait fait partie du cuartel de la Montagne.
C'était quoi le cartel de la Montagne?
En fait, c'était à un moment donné les insurgés, c'est-à-dire ceux qui s'étaient soulevés contre la République de l'armée, s'étaient enfermés dans le quartel de la Montagne. Et comme mon père qui était resté dans le giron de la République et le peuple de Paris ont voulu aller dans la caserne parce que c'était là où il y avait les armes. Et donc, pour s'armer contre Franco, puisque Madrid a résisté et a gagné, d'ailleurs. Et donc, si vous voulez, ils étaient enfermés. Et là, ils sont arrivés à fracasser les portes. Le peuple de Madrid et mon père sont rentrés dans la caserne et il y a eu un massacre. Et ils ont emporté tous les fusils, toutes les armes qu'il y avait à l'intérieur, quoi. Voilà. Et donc, si vous voulez, il a participé à ce fait, et c'était su, puisqu'ils étaient tous fichés, et donc, il risquait le garrot. Voilà, vous rappelez quand même que la France a livré un certain nombre de résistants espagnols, à Franco, et ces résistants ont été fusillés. Ça, c'est des faits d'histoire. Donc, il y avait quand même toujours ce problème. Moi, je me souviens aussi, enfant, j'avais 4-5 ans, et bien chez moi, il y avait souvent des inspecteurs qui venaient, qui fouillaient, qui regardaient, etc. J'ai vu mon père un jour arriver à prendre une furie à la maison, alors que il travaillait, parce qu'il avait été certainement averti, et prendre un carton dans lequel il avait son uniforme, et puis des choses qui lui restaient de la guerre d'Espagne et les faire disparaître parce qu'après il y a eu une fouille. Donc si vous voulez, tout ça c'était clandestin en quelque sorte. Et il nous protégeait aussi parce qu'il savait que nous étions stigmatisés et stigmatisés à l'école. Bon, je veux dire, combien de fois à l'école primaire on nous disait les sales espagnols ou Santelay, c'est des rouges, ils sont avec le diable, non, on joue pas avec vous à la marelle, voilà. Enfin, je veux dire, donc, pour lui, c'était aussi une manière de nous mettre à l'abri.
C'est une histoire vraiment émouvante que vous nous racontez là. Terriblement émouvante. Je rappelle le titre de votre ouvrage, hein, de votre roman, Lettres aux absentes, édition donc du Chèvrefeuille étoilé, hein, qui est une un échange épistolaire, donc imaginaire effectivement entre des femmes que vous avez voulu réhabiliter. Oui. J'avais une dernière question avant qu'on se quitte. Comment vous expliquez? Et c'est tout, je trouve, l'objet de votre livre que de les réhabiliter. Comment vous expliquez que les hommes soient toujours mis en avant dans les actes de résistance et que les femmes soient si peu citées et mises à l'honneur?
Parce que je pense que c'est des... Bon, on parle des années... 30-40. Ce sont, je pense, des restes culturels. On le voit aussi aujourd'hui dans des pays... où les femmes se battent et elles ne sont pas non plus reconnues, ce sont des pays qui restent sur des schémas, à mon avis, archaïques. Et voilà, je trouve que... Et puis les femmes ont mis longtemps à se battre pour ça, parce que finalement, elles sont reparties derrière les fourneaux, de s'occuper des gamins. Pour elles, il y a, même si elles ont milité, je pense à quelqu'un comme Nunes Targa qui est revenue, qui est le premier personnage, qui est incarné dans le premier personnage qui est Inès dans Lettres aux absentes. Après, elles sont rentrées avec force, elles ont milité, elle a voulu à tout prix faire condamner son tortionnaire, qui a été pendu d'ailleurs. Mais elle a voulu témoigner. Mais après, bon, elles ont eu des activités dans les années 60, 70, dans le planning familial, etc., etc. Mais elles ont repris le rôle de la femme avec des activités à côté. Et je pense, pour moi, c'est culturel. En France, pour nous, ce serait peut-être plus le cas aujourd'hui.
Voilà. C'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Je le reprécise, je citais tout à l'heure l'article, vous savez, dans L'Orient le Jour, donc sur votre livre, oui. Lettres absentes, oui. Publié au Chèvrefeuille étoilé. La photo, puisqu'on fait de la radio, hein, ça se voit pas, mais la photo qui est mise en évidence, c'est une photo de femme espagnole avec des fusils. Mmh. Et donc on voit bien, hein, que ce sont des combattantes. Et je trouve que votre livre aujourd'hui, je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, fait un écho aux femmes ukrainiennes aujourd'hui qui se battent sur le front. On voit des reportages de temps en temps à la télé, aux femmes kurdes qui se sont battues notamment contre Daesh, donc au Proche et au Moyen-Orient, et que l'on a vu également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence à voir des reportages qui montre qu'effectivement il y a des femmes résistantes, y compris des combattantes sur le terrain. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la place des femmes est beaucoup plus reconnue et que votre livre quelque part va faire œuvre effectivement pour aider à redonner une place aux femmes dans le cadre effectivement de la résistance à toutes les oppressions, hein, que ce soit le fascisme ou toute autre forme de pouvoir qui vise à confisquer la liberté des hommes et des femmes?
Oui, ben, je l'espère d'une part, et puis si vous voulez, c'est aussi l'objet de tout le travail d'intervention que je fais sur justement les femmes en guerre, femmes courage, dans des lycées, dans des collèges, pour sensibiliser les jeunes aujourd'hui, de manière à ce qu'ils puissent être aussi des courroies de transmission. Mon enjeu, c'est pas non plus de faire... entre guillemets, hein, une corporation ou un communautarisme femme-femme par
d'accord,
rapport à ça.
D'accord, ou du militantisme, d'accord.
Voilà, mon enjeu, si vous voulez, c'est de rééquilibrer l'engagement de l'homme et de la femme universelle, et pour qu'on se rende compte qu'il faut ensemble à la fois se battre et puis ensemble faire reconnaître des valeurs qu'il faut garder, des valeurs de liberté, des valeurs républicaines, quoi. Et donc effectivement, mon souci, c'est de remettre à niveau, en quelque sorte, voilà, même si quand j'interviens dans des lycées ou même dans des conférences, quand on me demande sur l'engagement des femmes, je parle un peu de l'équilibre à rétablir, mais du combat homme-femme commun qu'on doit. Parce que je m'inspire quand même, il y a un homme qui s'appelle Léopold Lacour, qui a inspiré notamment des femmes en Espagne en 1932, qui sont les Mujeres Libres, et qui était lui était sur ce principe de d'homme-femme universel, et je trouve que on doit ensemble travailler et résister. C'est pas la résistance n'appartient pas aux hommes et n'appartient pas qu'aux femmes, elle appartient aux citoyens, aux individus, à part entière, voilà. Donc
C'est un joli mot de conclusion, Manuela Parra, de cette très belle interview. Je rappelle, hein, vraiment, je recommande votre roman Lettres absentes, édition donc du Chèvrefeuille étoilé, parce que c'est aussi la façon dont vous l'avez conçu, un roman qui interroge et qui constitue effectivement ce devoir de mémoire dont je parlais dans mon propos liminaire, donc lors de cette interview. Vraiment, voilà, Les Tropes Absentes, édition du Chèvrefeuille étoilé, Manuela Parra, un roman à lire. On arrive tout doucement vers l'été. C'est vraiment un roman qu'on peut lire à l'ombre, avec un petit thé glacé. Ou qu'est-ce que vous prendriez, vous, Diego Arrabal, avec ce roman?
Un petit peu de menthe.
Bon.
De gin.
Un petit peu de gin, voilà.
De la douceur.
Voilà, pour le faire. En tous les cas, merci beaucoup, Manuela Parra.
Merci de m'avoir accordé ce temps. J'en suis très touchée. Merci beaucoup.
Au revoir.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni, Philippe Subercase.
Présence à Toulouse, 97.9.
Seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe, dit comment peut-on vivre aujourd'hui, dans la fureur et dans le bruit, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Chanter ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace, dit comment peut-on vivre sans lui, sous quelle étoile, dans quel pays, je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu.
Radio Présence sur le Causse 106.5.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Audience générale du pape ce matin depuis la place Saint-Pierre. Le souverain pontife est revenu sur les fruits de